Chapitre 11. Retour à Macao, sur le port, une bouteille cachetée, une lettre apportée par la mer, rendez-vous à l'île des papillons, ce n'est que Pulopilang, richesses et merveilles du pays, journal de Claude Marteau, le soleil d'ivoire, un long voyage, un épisode de la pêche à la baleine, un paysage, le conte du petit poussé à bord, Pulopilang, départ fait. À 8 mois de cet événement, après avoir épuisé l'expédient des recherches permises, ayant vu d'ailleurs de la Chine tout ce qu'il est convenable d'en voir, les trois amis convinrent de revenir en Europe. Le chemin le plus court devait être un sillon à parcourir de la Malaisie aux mers d'Amérique. À force de courir le monde, ils avaient donné dans le travers des touristes de notre époque. Ils aimaient les collections, les pacotilles, les curiosités et le bric-à-brac. Voilà pourquoi on voyait toujours à leur suite une caisse remplie des raretés des diverses contrées où ils avaient vécu. À vrai dire, ce supplément de leur bagage flattait beaucoup leur vanité. En rêvant au jour qu'ils se proposaient de passer plus tard en France, ils voyaient dans ces cris, dans ces flèches, dans ces costumes rares et dans ces produits de l'art asiatique la preuve incontestable et l'attestation de leur voyage. Enrichir leur butin d'un objet nouveau était considéré par eux comme une bonne fortune. Enfin, ce besoin de compléter leur collection les avait rendus singulièrement attentifs à tout ce qui les environnait. Ils étaient retournés à Macao, d'où ils devaient s'embarquer pour reprendre le chemin de l'Europe. Un soir, qu'ils se promenaient sur le port et examinaient la brouette singulière d'un des portefaix, un bruit assez intense frappa leurs oreilles. « Une bouteille à l'eau !» disaient des marins. « Une bouteille cachetée !» Ils s'approchèrent et Robert ramassa la bouteille. Le flacon était élégant, mais ce n'était pas cette circonstance qui préoccupait le plus l'ex-matelot de la Foudroyante. « Des cachettes donc vite !» disait Jacques à son pupille. Robert cogna légèrement le goulot de la bouteille sur la pierre d'un parapet. Le goudron se détacha du liège. On eut ensuite le bouchon en un instant. Une petite feuille de papier se trouvait en effet au fond de la bouteille. Robert s'en saisit avec une extrême rapidité et, après avoir déplié cette étrange missive, « Mon bon Jacques, dit-il, allons, il faut que tu sois réellement sorcier. Ce papier est couvert de pattes de mouche tracées par une main française, et cette main est celle de Claude Marteau. « Pas tant de phrases, Robert !» s'écria Horace. « Et lis tout de suite. Qui sait si cet écrit ne contient pas le dernier adieu du pauvre garçon ?» Robert fit silence une demi-minute, comme pour se recueillir, puis il lut à voix haute ce qui suit. « Je, sous-signé, Claude Marteau, français de naissance, jeté par ruse sur un bâtiment qui m'emmène aux antipodes, j'introduis dans cette bouteille 10 lignes de mon écriture, afin de faire savoir autant que possible à mes amis Jacques, Robert Kergorieux et Horace Verpré, que, séparés d'eux par un concours de circonstances bizarres, je suis néanmoins bien portant, ayant bon pied, bon œil et bonne envie de vivre. Si ce billet parvenait entre leurs mains, ce que je n'ose espérer, je les engage à venir me retrouver, d'ici à 6 mois, dans une île voisine, dans une des perles de la Malaisie, où le navire doit opérer son retour. La terre en question, baignée par les mers de la Chine, porte sous ce ciel le nom de pays des papillons, signé Claude Marteau. « Le pays des papillons !» s'écria Horace Verpré. « Et c'est justement ce que nous a dit autrefois le mandarin philosophe de Pékin. cette circonstance devait modifier profondément l'itinéraire des voyageurs. Pendant qu'ils marchaient en répétant à chaque pas ces mêmes paroles, « Le pays des papillons, le pays des papillons !» Un homme du port, un ouvrier distrait, un manœuvre oisif, arrêta ces mots au vol et leur dit « Eh, messieurs, le pays des papillons, c'est l'île de Poulopinan !» Après plusieurs questions, suivies d'autant de réponses, ils étaient mieux instruits sur ce chapitre qu'ils ne l'eussent été au bout de 15 jours par toute une académie. Combien de fois et pour combien d'objets n'en est-il pas de même en Europe et chez nous-mêmes? C'est aux grands esprits brevetés qu'on demande le mot de 1000 énigmes présentées par la vie pratique. Eh ! Que ne consulte-t-on de préférence celui qui passe ? Le paysan, l'homme du peuple, le matelot, le bûcheron, le mendiant ? Ceux-là vivent dans le temps présent. Leur naïveté est souvent le foyer de lumière qui indique le chemin de la vérité. Avant qu'on se décidât à partir pour l'île désignée, Horace Verpré fit une objection. « Dans la lettre que nous apporte la bouteille cachetée, dit-il, Claude Marteau nous annonce qu'il sera, d'ici à 6 mois, de retour au pays des papillons. Mais qui sait si nous pourrons l'y retrouver? Ces 6 mois sont passés. Qui sait s'il ne se sera pas lassé de nous y attendre? Qui sait d'ailleurs s'il aura eu le loisir d'y rentrer? Je ne préjuge rien, mais je crains fort de faire une vaine démarche en allant à l'endroit qu'il indique. » On délibéra sur ce point. « Il est bon d'être prudent, dit Jacques, mais en voyage et dans la situation où nous sommes, un peu de témérité ne m'essied pas. Nous avons des chances de retrouver notre pauvre garçon en allant à Poulopinang. Eh bien, allons-y. Voilà un premier point. Deuxième raison, tenez mes enfants, regardez avec moi cette carte et vous verrez que cette petite île de la Malaisie est précisément placée sur notre chemin pour retourner en Europe. Ce dernier argument était sans réplique. On s'organisa donc à la hâte et l'on partit dès le lendemain. Poulopinang, placée au milieu de la Malaisie, est le paradis de cet Éden du monde. C'est sur ce coin de l'univers que Dieu a réalisé le rêve d'un printemps éternel. Aussi l'a-t-il isolé au milieu de l'océan, afin qu'une foule avide et grossière ne vînt pas l'envahir. Ce sont les peuples poétiques de l'Inde, des Parsis, des Javanais, des Hindous, des Chinois industrieux et quelques Européens d'élite, des prêtres des missions étrangères et des trafiquants anglais qui possèdent ce beau domaine. C'est pour eux que ce sol privilégié mûrit les fruits de toutes les zones tropicales, depuis la cabane du vieux monde indien jusqu'au litchi du Fokien. C'est pour eux encore qu'il pare son sein des fleurs de toutes les contrées. C'est là que verdissent et fleurissent le camélia odorant, le frangipanier, le lotus et la rose. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans cette île prodigieuse, c'est que son climat si doux et si clément convient aux hommes de toutes les contrées. Dans les géographies officielles, la plage malaise porte le nom d'île du prince de Galles. L'île est un peu plus considérable que Jersey. C'est un domaine dont on pourrait faire le tour en une journée, à l'abri des arbres qui l'entourent de leur verte ceinture. Mais que de choses rares à voir dans ce circuit! Il s'y trouve tout un monde. On y voit des plaines, des vallées, des anses, des fleuves et des montagnes. Sa fécondité est telle qu'il n'est si petite lande de terre qui ne soit cultivée comme un jardin. Les colons ont compris qu'il ne pouvait croître sur ce sol que des cultures agréables aux yeux et d'une action enivrante. Sur les parties élevées des coteaux, ils ont planté des girofliers aux étoiles brunes, des canéliers à l'odeur aromatique, des muscadiers dont les fruits jaunes se cachent sous des feuilles semblables aux feuilles luisantes du laurier. De magnifiques habitations à toiture légère, comme il convient à l'Orient, mais où se rencontrent toutes les délicatesses de la vie européenne, forment en grande partie la ville de Pinang. En abordant, nos voyageurs demandaient une auberge, quelque chose qui ressemblât à une hôtellerie. On leur répondit en leur désignant les missions étrangères de la Malaisie. De courageux apôtres de la foi chrétienne ont établi en ce pays une maison de très grande importance, dont ils font fructifier les dépendances par le travail agricole. N'allez pas croire que ce soit dans un intérêt de lucre. Dans l'Extrême-Orient, tout le monde connaît et proclame le désintéressement des bons religieux. Ce qu'il y a de certain, c'est que le premier venu, européen, asiatique, africain, américain, océanien, peut entrer chez eux quand il lui plaira. Il y sera comme chez lui. On lui donne un gîte et une table. On soigne son corps et on guérit son âme s'il y a lieu. Le tout parce qu'il porte une figure d'homme et qu'il est par conséquent marqué à l'effigie de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'avoir un centime dans sa poche, ni même une lettre de recommandation dans son portefeuille. Entrez et réconfortez-vous, frères, c'est tout ce qu'on vous demande. La charité évangélique n'a jamais été mieux pratiquée que dans ce petit coin du monde. À peine installés, les nouveaux venus n'eurent rien de plus pressé que de demander des nouvelles de Claude Marteau. C'était d'ailleurs la raison déterminante de la station qu'il venait faire dans l'île. « Claude Marteau ? » dit un des pères. « Nous ne connaissons que ce nom-là. Français, nous éprouvons toujours un très grand plaisir à nous trouver avec des compatriotes. Il y a 2 mois, nous l'avons vu venir à la suite d'un long voyage. Inquiet, pensif, préoccupé, il paraissait être à la recherche d'amis qu'il avait perdus. « Nous sommes ces amis-là, » répondit Jacques. Tous les jours, armés d'une longue vue, ils couraient autour de l'île, cherchant à découvrir sur les flots le bâtiment qui devait vous amener par ici. Si, par hasard, 3 Français se présentaient pendant mon absence, disaient-ils, priez-les d'attendre, et pour qu'ils trouvent le temps moins long en attendant, donnez-leur ce manuscrit qu'eux seuls auront le droit de décacheter et de lire. » Et il nous a remis alors le paquet que voici. Tout en parlant ainsi, le missionnaire leur montrait une liasse de papier recouverte d'une enveloppe cachetée portant l'adresse suivante. Pour être remis de la part de Claude Marteau à Jacques, à Robert Kergorieux et à Horace Verpré. Eh, révérend père, Jacques, l'ex-matelot de la Foudroyante, Robert Kergorieux et Horace Verpré, les voilà, ils sont devant vous tous les 3. » Le révérend missionnaire donna le paquet à Jacques. En un tour de main, l'ex-marin eut jeté l'enveloppe de côté. « Tiens, Robert, » dit Jacques, « voici le manuscrit de notre ami, c'est à toi d'en donner lecture. » Robert Kergorieux lut donc à haute voix les pages qui suivent. Journal de Claude Marteau. À la suite de quelques pipes d'opium fumées dans la maison flottante d'un mandarin de première classe, un certain enivrement mêlé d'extase s'est emparé de ma pensée. J'étais éveillé et il me semblait que je dormais. Je regardais le ciel et il me paraissait tout parsemé d'arbres en fleurs en guise d'étoiles. On parla de traverser le fleuve pour retourner à terre. Je fis comme les autres. J'entrais sur un petit bâtiment formé avec des planches de chêne et des bambous. Des hommes s'y trouvaient en costume du pays. Je me disais mentalement, « Voilà mon vieux Jacques, voilà mon fidèle Horace Verpré, voilà mon courageux Robert. » Pendant ce temps-là, une sorte d'éclat de rire résonnait à mes oreilles. Je me disais, en voyant que la traversée ne finissait pas, « Où suis-je et qu'est-ce que cela signifie ?» Il est certain que je dormais, ou, si vous voulez, que je rêvais étant tout éveillé. Que s'est-il donc passé au moment où les invités du mandarin allaient de la maison flottante au rivage? Une embarcation suivait le même sillage. À présent que je suis réellement réveillé, je me rends compte de ma bévue. La nuit s'avançait. J'avais la tête en proie à l'ivresse de l'opium. Je ne savais ni ce que je faisais, ni ce qu'on faisait autour de moi. C'est alors que, me trompant, j'ai pris une embarcation pour l'autre. Je me suis mise à sauter dans une jonque qui choquait presque celle du mandarin. Et voilà comment j'ai été une seconde fois brusquement séparée de mes amis. Rien ne saurait exprimer l'expression de mon chagrin au moment où les conséquences de mon inconcevable sottise me furent révélées. Des hommes inconnus m'entouraient, jouissant de mon embarras. Je cherchais des yeux ceux qui me sont chers. Ils devaient déjà être fort loin de moi. Dans mon trouble, je les appelais tous les trois par leur nom, si peu compréhensible pour ceux qui m'entouraient. « Où êtes-vous, Jacques, Robert, Horace ?» Mes cris ne firent qu'amener une explosion d'hilarité moqueuse. Cependant, un homme entre deux âges, qui se tenait dans un coin, sur une botte de feuilles de bétel, me dit d'une voix douce, en chinois pur et élégant, « N'ayez pas peur, étranger, il ne vous sera fait aucun mal. » Cette jonque sur laquelle je suis tombée nous mène à un navire d'un certain tonnage, c'est-à-dire d'une certaine importance, et qui fait, dit-on, le trafic sur les mers qui baignent l'Asie. J'admire les caprices de ma destinée, qui me font voir plus de pays que je ne projetais d'en visiter. On nous transborde sur le grand bâtiment qui se nomme, je crois, le Soleil d'Ivoire, et l'on nous dit « En route, nous ne reviendrons par ici que dans 6 mois pour nous arrêter au pays des papillons. » C'est alors que l'idée me vint d'insérer dans une bouteille cachetée une lettre à l'adresse de mes 3 amis. Il y a 3099 chances sur une que cette épître ne leur parviendra jamais, ni en Chine, ni ailleurs. Mais il y en a une, la 4000e chance, que la missive pourra tomber entre leurs mains, et c'est pour cela que je m'abandonne à ce projet. Où allons-nous? Je n'en sais rien. Que faisons-nous? Je l'ignore. Sommes-nous pêcheurs? Sommes-nous trafiquants? Je le crois. Le capitaine à qui je fus présenté dit, après m'avoir toisé des pieds à la tête, « S'il ne peut pas nous être utile pour la manœuvre, nous nous servirons de lui pour nous amuser. » Ces paroles ne me promettent rien de bon. Tout me donne à comprendre que je me suis mépris sur le sens des paroles du capitaine. Les amuser, ce ne doit pas être les faire rire à mes dépens. Ils ont vite deviné que j'étais un Européen, que j'arrivais de loin, que j'avais vu beaucoup de pays, que je connaissais une multitude de choses dont ils ne soupçonnent pas l'existence et que, de temps en temps, je pourrais leur raconter tout cela pour les désennuyer. Nous voilà déjà loin des rivages de la Chine. Que de circuits nous faisons! On m'annonce que nous allons changer de costume parce que la température s'abaisse à mesure que nous naviguons. Nous longeons les îles du Japon. Nous doublons la pointe de Bornéo. Une lune de plus et l'air fraîchit. Nous voilà en vue du Kamtchatka. Il y a peu de jours, rôtis par le soleil, maintenant glacés, nous allons donc d'une extrémité à l'autre. Ceux qui aiment les émotions appellent cela vivre. À un point de relâche, le Soleil d'Ivoire s'arrête pour le commerce des pelleteries. Puis l'ancre est levée de nouveau et nous nous remettons à la voile. Sur la dunette, où je me promène de temps en temps, une lorgnette à la main, je jette de longs regards sur cette mer si peu semblable à celle que j'ai déjà vue jusqu'à ce jour. La pensée de mes amis absents ne me quitte pas. Où sont-ils à cette heure? Que deviennent-ils? Continuent-ils à être bien accueillis en Chine? Ne sont-ils pas, comme moi, victimes de quelque nouvelle mystification du sort? Aussitôt que la vigie signale une voile, je m'imagine que la nef qui la porte va m'amener ses compagnons que je suis si triste d'avoir quittés. Plus nous avançons, plus la lumière redevient vermeille. Que de points de vue m'avaient échappé en passant la première fois dans ces parages. Il en est du grand livre de la nature comme de tout autre. Il faut le feuilleter à plusieurs reprises pour le bien comprendre et pour l'aimer. On nous envoie à terre, plusieurs hommes de l'équipage et moi. Dans le nombre se trouve le Danois. En nous avançant au-delà des côtes, nous trouvons, qui le croirait, un admirable paysage qu'on croirait être un fragment des Alpes jeté par la main du hasard sur cette terre inconnue. Tout y a un aspect grandiose. Le pic est couronné de sapins. Entre l'écartement des rochers coule et tombe, avec fracas sur la pierre, une cascade d'eau limpide mêlée de fragments de glaçons. Autrefois, me dit alors le Danois, j'ai fait un tour en Suisse. Il me semble me retrouver auprès d'un des beaux sites que j'y ai tant admiré. En bas, sur les éboulements formés par des quartiers de roches que le temps a détachés de la masse, nous rencontrons dans les crevasses une végétation verte, robuste et mélancolique, absolument pareille à celle qu'on voit dans quelques-uns des cantons helvétiques. Mais il n'y a ici, pour animer ce paysage, ni chalet, ni guide, ni touriste. Il n'y a que la solitude et Dieu. À bord, pour charmer les ennuis d'une traversée longue et monotone, nos orientaux m'entourent et me disent « On prétend que les mandarins de ton pays sont fort habiles dans l'art de fabriquer des fables. Voyons, conte-nous quelques-unes de ces histoires. » Mon embarras est grand. Que leur dire qui soit approprié au génie de leur race ? D'abord, mon éducation de conteur a été singulièrement négligée, et ensuite, je n'ai guère l'habitude de parler plus d'une minute de suite. Comment faudra-t-il m'y prendre pour causer pendant des heures entières en présence d'une trentaine d'hommes, dans une langue que je ne sais que fort imparfaitement ? Jusqu'à ce moment, les gens du Soleil d'Ivoire m'ont traité avec assez de douceur, parce que je ne les ai heurtés en rien. Qui sait si, parlant un peu longuement, je n'arriverai pas, malgré moi, à choquer leurs préjugés, leur race, leurs sentiments et leurs croyances. Le Danois que je consulte à cet égard me dit « Vous êtes bien bon de vous creuser la tête pour si peu de choses. Eh, contez-leur donc l'histoire du petit Pousset et de ses 6 frères. C'est une histoire à enchanter l'univers entier. » Ce conseil du Scandinave était excellent et je m'applaudis beaucoup de l'avoir suivi. Les autres contes populaires de mon pays y passeront. Riquet à la houppe les a fait beaucoup rire, Barbe Bleue les a effrayés. Ils m'ont fait recommencer 2 fois l'histoire merveilleuse du chat botté et du marquis de Caraba. Voilà donc les hommes. Sous quelque ciel qu'on les prenne, les contes leur plaisent jusqu'à les captiver. Et, à tout prendre, ce n'est pas un mal, puisque la réalité est souvent bien moins aimable que ces fictions enfantines. Cependant, nous approchons toujours. C'est déjà une mer d'une autre couleur, c'est un autre ciel. L'air tiède nous annonce notre retour en Orient. Quelle est cette masse blanche là-bas qui ressemble à une falaise de la Normandie, une des villes pittoresques de l'archipel malais? Une végétation luxuriante est le caractère distinctif de ces pays baignés de soleil. Encore quelques jours, et nous allons revoir l'île qu'on m'a annoncée comme devant être le terme de ce voyage. Y retrouverai-je mes amis ? C'est une espérance bien insensée que celle qui a pour base une bouteille cachetée lancée à la mer et abandonnée aux caprices des flots. Mais il n'y a pas à murmurer contre la Providence. Plusieurs fois déjà nous avons été séparés et nous sommes réunis par suite d'incidents qui tenaient du miracle. Voilà le pays des papillons, autrement dit Pulau Pinang, ou encore l'île du prince de Galles. Dieu soit loué, l'Angleterre a planté son pavillon sur ce sol. C'est un pays chrétien, une terre libre. Nous abordons et nos Chinois me disent avec un sourire dans lequel il entre bien un peu de moquerie. À présent, tu vas faire ce que tu voudras. Me voilà seule dans cette île enchantée. Par bonheur, la maison des missions étrangères m'est ouverte. C'est en ce lieu que je me propose d'attendre mes 3 amis. Dans cette résidence hospitalière, j'ai fait connaissance d'un Provençal nommé Timoléon Mermet, qui se donne le titre de capitaine de vaisseau, probablement parce qu'il possède dans le port une embarcation 3 fois grande comme un des sabots de mon grand-père. Il fait le commerce sur les côtes. « J'ai besoin d'un garçon actif pour me seconder », m'a-t-il dit. « Voulez-vous vous associer avec moi ?» J'ai différé de répondre. La vie d'aventure ne me convient pas. Je n'ai qu'un désir, celui de retrouver mes amis. « Eh bien, m'a dit le Provençal, « je vous donne 2 mois pour laisser à vos amis le temps de venir vous rejoindre. Si, ce délai passé, ils ne se sont pas présentés, bagasse, c'est qu'ils n'auront pas eu de nouvelles de votre bouteille cachetée. Alors nous nous associerons. Soit, ai-je répondu. Timoléon Mermet allait faire un petit voyage en attendant. Que de charmantes promenades j'ai faites dans l'île en attendant. Rien ne peut donner une idée de la hauteur, de la richesse, de la variété ni de la beauté des arbres. Les oiseaux y sont brillants comme ceux qu'on voit chez les orfèvres, en or, en saphir, en diamant. Ce qui m'a le plus recréé, c'est une innombrable famille de singes. Il n'y a pas de spectacle plus comique que celui d'une centaine de ces quadrumanes faisant tomber du sapin, très grand arbre, des milliers de fruits semblables à ceux du micocoulier. Parfois, un combat acharné s'engage entre eux. Dans la mêlée, la tête vénérable d'un vieux singe apparaît tout à coup et la guerre finit vite. J'ai attendu 6 mois, j'ai attendu 8 mois. Timoléon Mermet revient à la charge. Bagasse, vous attendriez 100 ans ici que vous ne reverriez pas vos amis. Vous avez bien plus de chance en vous mettant à courir le monde. Je me laisse gagner par ce raisonnement. Comment ? S'écria Horace Verpré. Claude Marteau est reparti ?
Oui, monsieur, il est reparti hier, répondit un des serviteurs des missions étrangères. Cette île est un lieu plein d'enchantement, dit à son tour Jacques, mais rien ne nous y retient plus. Nous partons demain, mes enfants.